Foot Karma.
Bonjour, je suis Bina Paradin-Mikoto.
Foot Karma.
L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Foot Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Foot Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Foot Karma. Vous venez avec moi ? Bienvenue sur Foot Karma, je suis très heureuse d'accueillir Antonin Bonnet. Bonjour Antonin.
Bonjour Bina.
Antonin, tu es le fondateur du restaurant Quinsou et de la boucherie Grégoire. Tu as fait tes classes chez Michel Brasse à l'Aïeul. Tu as officié une douzaine d'années à Londres chez Oumu et Greenhouse. Et tu as finalement posé tes valises dans le 6e arrondissement de Paris où tu as ouvert le restaurant Quinsou qui a été rapidement remarqué par la critique et récompensé d'une étoile. Tu as aussi racheté la boucherie voisine du restaurant, la boucherie Grégoire, pour en faire un commerce de bouche de qualité. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro de Foot Karma car j'ai habité pendant longtemps dans le 6e arrondissement et j'étais ta voisine. Ta boucherie m'a nourri avec délices, en particulier pendant le premier confinement. Et j'aimerais échanger avec toi aujourd'hui sur ce qui fait la qualité de la viande et sur tes inspirations. Antonin, est-ce que tu peux me décrire quelle est la démarche de qualité que tu mènes à la boucherie Grégoire ?
La démarche est assez simple. Au niveau qualité, en fait, on travaille surtout sur la qualité des élevages. Donc en fait, les environnements, les races et ensuite la nutrition. Et puis aussi les principes d'élevage en fait. On essaie de remettre pas du bon sens, mais on va utiliser un mot qui est très à la mode, la virtuosité.
Qu'est-ce que tu mets derrière
ça ? Il faut que ça ait un sens en fait. On n'est pas sur des volumes, on est sur une régularité de travail. On est sur des bêtes de qualité qui doivent vivre dans un environnement de qualité, donc qui doit avoir
une vie.
C'est
quoi un environnement de qualité ?
Il faut qu'ils aient de l'espace pour pâturer, il faut qu'ils aient une nourriture qui soit adaptée à leur physiologie, c'est-à-dire qu'un animal qui mange de l'herbe doit manger de l'herbe. Ils doivent prendre le temps de grandir, donc on prend des animaux qui sont matures, qui prennent le temps de pousser, qui ont une alimentation équilibrée, qui au niveau phytosanitaire ne sont pas dopés, c'est-à-dire qu'ils ont des pratiques qui sont... on va dire naturel, entre guillemets, tant que possible. Il y a des moments, il y a des interventions qui sont nécessaires, il faut être aussi honnête. Le bio, des fois, c'est pas toujours bon non plus. Donc, des fois, il y a du... Voilà. Donc, on regarde tout ça de près. Est-ce qu'on est parfait ? Non. Est-ce qu'on essaye de faire de notre mieux ? Oui. Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer ? C'est certain. Est-ce qu'on est content et fier de ce qu'on a fait pour l'instant ? Oui, parce qu'on est très jeune encore, on n'a que 2 ans. Est-ce qu'on espère aller beaucoup plus loin ? Oui. Voilà. L'idée c'est d'avoir des animaux issus seulement de petits élevages. Ce que j'appelle petits élevages, c'est moins de... Enfin bon, bref. Les grands élevages, c'est démentiel. Les petits élevages, au moins, on peut essayer de contrôler et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Les grands, c'est... Ils ont lâché prise complète, c'est un délire.
Et aujourd'hui, pourquoi avoir choisi d'ouvrir une boucherie ?
Alors la boucherie, c'est un peu un accident. Il y a eu une grosse évolution depuis, enfin, surtout intellectuellement, et une différente compréhension de ce qu'est une boucherie, de ce que ça représente et de l'environnement aussi. On l'a acheté un petit peu par accident, en fait. Une livraison est arrivée un jour, des agneaux sont arrivés à la boucherie. On a gardé les agneaux dans la chambre froide, on s'est aperçu que c'était très pratique. On travaillait déjà sur carcasses et déjà avec des petits producteurs... dans le restaurant, donc on n'a pas changé nos pratiques avec la boucherie. Par contre, c'était devenu une évidence due au côté pratique, en fait. Et puis la boucherie était très très belle. Elle périclitait un petit peu, enfin, donnait pas l'impression d'être en très bonne forme au niveau sur le plan économique. Et donc on s'est posé la question, ça serait peut-être pas mal de reprendre la boucherie et d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Je vais être honnête, au moment de l'achat, j'ai eu un gros doute. J'ai pratiquement abandonné.
Pourquoi ?
Parce que je commençais à comprendre ce que représentait le coût de la protéine sur l'environnement et sur les humains. Et je me suis vraiment posé la question à savoir est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire. Et après quelques jours de réflexion, je me suis dit si c'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera. De toute façon, ça sera peut-être pas fait comme toi tu l'entends, ou tu pourras peut-être pas essayer de changer les choses. Voilà. Donc aujourd'hui, petit à petit, parce que ça prend du temps, on essaie de changer nos habitudes, nous, en tant que boucher.
Alors, je reprends justement ton expression, le coût de la protéine sur l'environnement, sur l'humain. Qu'est-ce que tu entends par ça ?
Aujourd'hui, on va appeler un chat un chat. Tout le monde parle de pollution, d'émanation de gaz de CO2. Aujourd'hui, la première source de pollution mondiale, c'est l'élevage, avec 40% des gaz CO2 relâchés dans l'air par l'élevage. Voilà,
c'est beaucoup plus que tous les modes de transport.
Beaucoup plus. Le mode de transport vient en troisième position, même quatrième position. Donc du coup, aujourd'hui, si tu veux, l'élevage représente la première source de pollution en carbone, donc relâché, 40%. En deuxième position, on a la production d'électricité, 27%. En troisième position, si je ne me trompe pas, c'est tout ce qu'on produit, qu'on crée, qu'on fabrique. Donc là, on est à 17%. Et en quatrième position, accroche-toi bien, c'est là seulement où viennent tous les modes de transport, bateaux, cargo, tu sais, qui consomment des trucs dégueulasses, avions, voitures, tout. Et là, on est à 13%, je crois, 15%.
Donc, il est beaucoup plus essentiel de s'intéresser à la viande qu'on met dans son assiette que de savoir si on va prendre l'avion ou pas, quelque part.
C'est une modification qui est déjà personnelle, donc elle peut se faire au niveau... on peut tous faire des choix. C'est très rapide, hein. Ça peut se faire du jour au lendemain, ça coûte rien, non, ça a même coûté moins cher, parce que les gens vont acheter moins de viande, hein. Aujourd'hui la viande, c'est la protéine, c'est la chose la plus chère. Alors je sais que c'est un peu fada, parce que moi j'ai une boucherie et je dis aux gens, mangez moins de viande, si vraiment vous voulez en manger, mangez-en de la meilleure, de meilleure qualité, c'est un investissement personnel, vous achetez quelque chose de bon, et que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps. Dans le sens inverse, vous allez acheter quelque chose qui n'est pas très très bon, qui ne coûte pas très très cher, vous allez mettre à l'intérieur de votre corps et qui est plein de produits phytosanitaires, d'antibiotiques et qui n'a aucune valeur nutritive. Enfin, il y a un moment, il y a des choix, il faut faire les bons, je pense. C'est pas une évidence aujourd'hui, c'est pas donné pour tout le monde, je veux bien le reconnaître. Mais je pense qu'il vaut mieux en manger moins, mais mieux. Voilà.
Food Karma. Food Karma.
C'est quoi les questions qu'il faut se poser ou qu'il faut poser à son boucher, à son magasin pour être sûr que ce soit bon ?
Il faut être un petit peu emmerdant, quoi. Il faut leur demander quelle race c'est, d'où ça vient. Il faut se poser des vraies questions. Je pense qu'il faut vraiment se poser les vraies questions. C'est déjà, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette viande ? Pourquoi on veut la manger ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce que c'est juste une commodité ? Si oui, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce que c'est pour se faire plaisir ? J'ai vraiment une vraie envie. Tiens, je vais me faire, un vrai bœuf bourguignon, pourquoi pas ? Bon, à ce moment-là, je vais voir mon boucher et je lui demande qu'il me taille la quantité de bœuf bourguignon nécessaire pour me faire mon bœuf bourguignon. Si c'est juste me faire une saucisse grillée avec une pomme purée, pourquoi pas ? Mais il faut que ça redevienne une vraie source de célébration et de plaisir.
Donc la viande, ce n'est pas pour tous les jours, même quand on est boucher ?
Pour moi, même en tant que boucher, ce n'est pas tous les jours. Pas du tout.
C'est quoi ton rythme personnel ?
Je suis passé de en manger tous les jours à en manger aujourd'hui une à deux fois par semaine. C'est assez radical, c'est assez peut-être unique. Peut-être que je me tire une balle dans le pied. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je m'en moque de ce que pensent les gens. Je pense qu'il y a des décisions qui ont besoin d'être prises, même au plus haut niveau. Aujourd'hui, il y a même des grandes compagnies de viande, hein, qui sont en train de promouvoir le flexitarisme. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si eux le font, c'est qu'ils savent qu'à un moment, il y a une limite au système. La limite au système, c'est que la population va grandir sur la planète, mais qu'on est déjà à la limite au niveau production de protéines. C'est une réalité aujourd'hui. C'est physique, c'est mathématique. Alors, je sais qu'il y a déjà eu des études dans les années 70 où le mec, il disait, on va tous crever, il y a trop de monde sur la planète, on ne va pas y arriver. On y est arrivé. Sauf que là, on arrive à des ruptures où, entre la pollution, la production de céréales pour faire de la protéine animale, on est vraiment en rupture. Donc, les vraies questions à se poser aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas changer nos habitudes et passer à autre chose, peut-être ? Quand j'y passais à autre chose, il y a 100 ans, ou il y a peut-être il y a 50 ans, les, les idées étaient différentes et peut-être nos capacités étaient différentes. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se nourrir avec un régime flexitarien ou beaucoup moins riche en protéines animales. On a énormément de sources de protéines végétales. Et est-ce qu'on ne peut pas tout simplement équilibrer son alimentation pour réduire le coût et l'impact sur l'environnement ? Aujourd'hui, la viande devrait être une vraie célébration, un vrai plaisir.
J'aime beaucoup cette notion de célébration que tu mets en avant, qui est de dire que finalement, c'est une fois de temps en temps et que c'est une fête d'en avoir.
C'est une fête et ça devrait être aussi une reconnaissance envers l'animalité quelque part, parce que si on
Qu'est-ce
mange
que
un animal...
Par ça
c'est qu'il y a eu un sacrifice. Un animal a donné sa vie, quelque part.
Ce qu'on oublie souvent quand on voit le steak dans son assiette.
Très souvent, il y a beaucoup de paysans qui ont des animaux, qui les voient partir à l'abattoir avec beaucoup de regrets, ça leur fait quelque chose. Alors, il y a beaucoup de livres hein, là-dessus, on peut lire, le débat est sans fin, okay, sur la compassion, l'animalité, et si, à un moment, si on a la compassion, pourquoi on a décidé de tuer les animaux ? Dans beaucoup de cultures, il y a toujours un remerciement envers l'animal sacrifié avant de le manger. Il y a toujours un engagement culturel par rapport à ça, sur le fait qu'on va tout consommer et tout sera assumé, et un remerciement envers la mère nature. Donc c'est un peu du paganisme, hein, c'est un peu, mais il y avait quand même ce sentiment de culpabilité quelque part, et cette vraie célébration et ce vrai remerciement.
Paganisme ou alors peut-être une meilleure osmose avec la nature aussi.
Osmose ou juste un peu d'empathie tout simplement, hein. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que si on prend un morceau de viande, il faut pouvoir l'assumer, l'absorber, le travailler dans sa plénitude, j'invente des mots qui n'existent pas, c'est super, donc dans sa plénitude, pour que ça redevienne acceptable. On est passé dans l'inacceptable.
Pour que ça devienne un acte conscient aussi.
Il faut que ce soit un acte conscient. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut que tout le monde aille voir comment on tue un animal ? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais peut-être que les gens se poseraient des vraies questions. Ah, c'est ça, un abattoir, c'est ça. Waouh, ça pique. Et oui, ça pique. D'entendre un animal beugler, pleurer parce qu'on va mettre fin à ses jours, c'est pas génial. Alors, ça fait depuis des centaines d'années qu'on recule les abattoirs des centres de vie et pour que les gens ne se rendent plus compte de ce que ça représente. Et on a passé un cap aujourd'hui où la viande, c'est de l'argent, en fait. C'est de la valeur, c'est une valeur monétaire.
C'est un bien comme un autre.
C'est un bien comme un autre. C'est pas un bien, c'est une vie. Et il y a un dilemme.
Donc il faut accepter...
Il faut accepter que ce soit une vie.
Et le reconnaître dans son assiette.
C'est dur, hein.
Très dur.
Et donc à partir du moment où on fait ça, on commence à en manger un tout petit peu moins déjà. Et si vraiment on veut en manger, il faut vraiment s'appliquer. Moi, c'est ce que je dis. Si vous voulez vraiment manger de la viande, appliquez-vous. Choisissez. Je vais être honnête. Si c'est pour manger un Big Mac chez McDo, ça ne sert à rien de le prendre avec du bœuf. Il faut le prendre en végétarien, il faut le prendre avec autre chose à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Ce n'est plus de la viande. C'est autre chose.
Oui, c'est un animal qui a été réifié, quoi, qui est devenu une chose.
Non, mais là, même le morceau qui est au milieu, là, les deux tranches de trucs, là, c'est autre chose. Enfin, je dis McDo ou je dis beaucoup d'autres. Hein. Si on va chez Subway, si on va dans toutes ces... De toute façon, à partir du moment où on rentre dans des notions de volume... énorme, l'énormité du volume fait qu'on perd contrôle, c'est plus du tout la même chose. À ce moment-là, il faut manger autre chose.
Alors, qu'est-ce que tu manges quand tu ne manges pas de viande ou de poisson ?
Bah, tu vois, ce soir, on va se faire des lasagnes à la maison, les filles, bon, lasagnes, normalement, c'est viande. On va prendre des champignons, le champignon, c'est super, hein. Des oignons, des poireaux, enfin, le domaine du végétal et de la légumineuse, c'est incroyable. Il y a une diversité, il y a une complexité dedans qui est sans fin.
D'ailleurs, je trouve que ce qui est remarquable dans ce que tu proposes à la boucherie Grégoire, c'est qu'il y a beaucoup de plats ou d'accompagnements qui sont proposés et qui peuvent finalement devenir... Moi, ça m'arrivait régulièrement de venir pour prendre plein de petits accompagnements et je n'achetais pas de viande.
Alors, tu sais, l'an dernier, on avait ouvert la terrasse sur la boucherie et on avait une partie de la carte qui était carnée et l'autre côté de la carte qui était seulement à base de légumes et 100% légumes. Et en fait, on a vu des choses très marrantes sur la terrasse et des gens qui s'assiedaient, qui commandaient que de la charcuterie, de la viande, des saucisses, des machins. Et la table de côté, un couple qui prenait, par exemple, que des légumes, 100% végétariens. Et on a eu les deux qui cohabitaient sur la même terrasse et ça se passait très bien.
Ah, ça, je pense que c'est un point important. C'est aussi aujourd'hui la tolérance dans le choix de ce qu'on met dans son assiette. Parce qu'aujourd'hui, il y a des combats... très important autour de la viande, autour de l'interdiction de la viande, autour des gens qui veulent dire aux autres ne mangez plus de viande et des carnivores qui répondent laissez-nous manger de la viande.
Je pense un peu comme la religion. Dès qu'on rentre dans les extrêmes, c'est pas bon. L'extrémisme ne marche jamais. Et donc interdire les gens de faire quelque chose, c'est pas une solution aujourd'hui. Il faut éclairer les gens, il faut passer par l'éducation et l'information. Et après, laisser les gens le temps de choisir ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que si on leur explique et si vraiment ils sont en connaissance de cause, il y a un moment, ils vont se dire c'est pas possible. Quand on voit les œufs, comment c'est produit, dans les batteries avec les volailles, quand on voit la volaille, comment ça pousse, il y a un moment, quand vous allez dans un supermarché, qu'on vous propose du poulet à 2,50 €, on a un problème. Entre si vous enlevez dans le magasin le coût du personnel, okay, le coût de la location, la logistique, vous rajoutez l'emballage, le papier, la pub, okay, il reste combien pour le poulet, s'il vous plaît ? Plus on fait de marge.
Vraiment plus rien, quasiment.
Il reste rien. Donc, on l'a acheté combien, le poulet ? On l'a acheté à qui ? Il était produit comment ? Qu'est-ce qu'il a mangé pour coûter si peu cher ? Quel est le vrai coût sur l'environnement ? Quel est le vrai coût sur les gens ? Parce qu'il y a des gens qui ont produit ces poulets. Eux, dans leur tête, à quoi ils pensent ? Ils sont heureux, ils sont malheureux de produire, parce que c'est de la merde, hein. C'est pas du poulet, c'est faut appeler un chat un chat. Donc, ces gens, psychologiquement, ça peut pas aller. Dans ces usines d'abattage, ça peut pas aller non plus. Donc à un moment, il faut vraiment se poser les vraies questions.
Donc pour toi, c'est ça les questions que tu dois te poser quand tu achètes ta viande, en fait.
Est-ce que j'ai fait une bonne opération en achetant un poulet à 2,50 € ou est-ce que j'ai acheté du crime ? À qui profite le crime, entre guillemets, de ces productions ? C'est ça les vraies questions aujourd'hui. Et donc, après dire qu'il faut aller acheter du poulet à 40 € du kilo, peut-être pas, il y a une limite, il y a un juste milieu.
Il y a un juste prix, en fait,
et il y a un juste prix. Aujourd'hui, pareil, on est... Les volailles, quand on faisait pousser l'élevage de la volaille de batterie, a commencé en 1927 avec une dame qui a eu une petite erreur de commande. Elle est passée de 50 à 500. À partir de là, elle a commencé à construire un système pour faire pousser la volaille le plus rapidement possible. La taille de la volaille en moyenne entre 1927 en élevage et la taille de la volaille maintenant, c'est x6 en poids. Pour 3 fois moins d'aliments, et c'est 6 fois plus vite. C'est de la magie, le truc.
C'est une équation démesurée.
Ils ont travaillé sur la génétique. Donc, ils ont appauvri la génétique des animaux pour faire les faire grandir plus grands. C'est toujours au détriment. La nature est assez énorme. Quand on prend quelque chose, c'est au détriment d'autre chose. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc, en général, si on prend un truc quelque part, c'est voilà. Pour que ces animaux restent en vie, ils sont dopés à la vitamine et aux hormones. Okay, et aux antibiotiques, parce que sans ça, ces animaux, ils crèvent sur place. Bon, déjà, ils sont dans des milieux au niveau zootonie qui sont dégueulasses. Okay. Aujourd'hui, on se demande d'où vient notre petit Covid, mais il ne faut pas chercher trop loin. C'est les élevages intensifs, apparemment, 90% de chance.
De toute façon, aujourd'hui, quasiment toutes les maladies viennent des élevages intensifs.
Voilà, donc il y a un moment, et qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur ? Comment se réorganise, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'en manger, mais si on en mange, il faut vraiment s'appliquer, se poser des vraies questions, tout simplement. Et le poisson, je ne vais pas y aller parce que c'est encore notre débat, mais on est...
Oui, il y a les mêmes questions à se poser.
Il y a les mêmes questions. Et on n'est pas bien, que ce soit pour l'élevage ou pour le sauvage.
Antonin, aujourd'hui, pour ne plus manger de viande, il y a beaucoup de nouvelles propositions, des substituts de viande, de la viande en laboratoire. Qu'en penses-tu ?
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de substituts. Moi, des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on veut substituer quelque chose qui ne ressemble pas à autre chose. Enfin bon, bref, c'est assez étrange. Pour moi, intellectuellement, je peux comprendre oui et non. Alors aujourd'hui, on a les protéines végétales qui mimiquent la protéine animale. À coup, comment on peut appeler ça ? Ils modifient la texture, ils modifient...
D'additifs, de texturants divers et variés.
Donc, ils bidouillent beaucoup avec la protéine végétale pour que ça ressemble à un steak, pour que ça ressemble à un blanc de volaille.
Et c'est le goût du steak que même parfois ça saigne.
Je vais être honnête, sur certains trucs, c'est assez bluffant. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'en venir là pour penser qu'on va manger un vrai faux chicken nugget ? Au point où on ne sait même plus qui est le vrai et qui est le faux. Du vrai faux steak d'ailleurs, qui sent pas très bon quand on le cuit. Ça sent dégueulasse. Hein. Ça sent la vieille viande du self-service qu'on a fait cuire pendant 5-6 heures. C'est assez horrible. Ensuite, on a...
Est-ce que justement, l'objectif, c'est peut-être pas, c'est de reproduire le goût et l'odeur de la mauvaise viande?
Oui, mais à ce moment-là, fais-toi une galette de céréales, fais-toi autre chose. Sois honnête et fais-toi plaisir. Mange quelque chose qui est quand même meilleur gustativement bon. Et surtout bon pour ton organisme. Va pas manger un vrai faux steak de betterave avec plein d'additifs qui doit avoir, sentir et ressembler à l'odeur et au goût du bœuf. Enfin, c'est... Ou alors, fais-toi plaisir, exceptionnellement, va t'acheter un steak de bœuf.
Un vrai, un bon.
Un vrai, si tu as décidé que tu étais flexitarien, de temps en temps, tu vas te faire plaisir. Mais de là, manger un vrai faux steak, déjà, vrai, faux, steak, enfin bon, bref, c'est assez étrange. Ensuite, on a la viande in vitro. Là, je demande à
donc
voir.
Donc, qui pousse toute seule en laboratoire, mais qui est de la vraie...
C'est la vraie viande, c'est du muscle. Alors, on fait pousser un muscle in vitro. Aujourd'hui, on est sur des sérums qui sont issus de sang. On ne sait pas issus de où ni de quoi pour faire pousser la viande. Le seul avantage, apparemment, aujourd'hui, c'est au niveau de la ressource. On fait des économies jusqu'à 90% donc, d'eau, de matière, etc. Et sur les matières polluantes aussi. Donc, pourquoi pas? Est-ce que c'est un futur? Je n'en sais rien. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher? Oui. Est-ce que c'est pour tout le monde? Pas tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder? J'en sais rien. C'est un peu tôt. C'est comme beaucoup de technologies, il faut laisser un peu de temps. De toute façon, il y en a qui sont prêts à investir dedans, parce qu'ils pensent qu'il y a un futur. Est-ce que ce sont les mêmes lobbies que la viande? Je ne sais pas, peut-être. C'est à regarder. On a les insectes. Alors, il y a certains endroits où on mange les insectes comme on mangerait des crevettes, hein, ou comme on mangerait des anchois.
Oui, il y a des pays où on mange traditionnellement des insectes.
Traditionnellement, et là, ça ne me dérange pas. De là, les transformer en galettes ou en boulettes pour faire autre chose. Après avoir fait un élevage intensif d'insectes qui représente encore une source de pollution, qu'on a nourri encore avec un autre truc, il y a des vraies questions aujourd'hui. Hein. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger... Enfin, on a le domaine du végétal, est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur les algues, les légumineuses, les légumes, varier les plaisirs et
qui offre une infinité de combinaisons.
Et qui offre aujourd'hui une infinité de combinaisons. Et surtout, une provenance directe, non manipulée, de nutriments, de vitamines et de protéines, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, en équilibrant vraiment, véritablement nos alimentations, en faisant de vraies recherches de ce côté-là, est-ce qu'on n'a pas un meilleur futur, tout simplement?
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.
Food Karma.
Pour finir cet entretien, j'ai un petit questionnaire pour mieux connaître tes goûts personnels.
Oui.
Quel est ton plat favori à partager?
Le dernier qu'on a partagé à la maison, ensemble, on a fait un kimchi jjigae végétarien avec, dedans, on a mis avec des nouilles à l'intérieur. On a triché. Donc, on l'a fait un peu vilain.
Vous avez créé un nouveau plat.
Oui. Et on a mis du tofu frit dedans. Donc, c'était à la fois vilain, ce qu'on appelle vilain, donc gourmand, et à la fois super, super, enfin, au niveau diététique, c'était bien, quoi. Donc, c'était bien, ça. Des fois, ça peut être un joli plat de pâtes, ça peut être très très bien aussi. Avec une saucisse aux herbes, beaucoup de poivre noir, ça peut être très très bien.
Est-ce que tu as un plaisir solitaire, un plat que tu adores manger quand tu es seul?
Ouais, c'est salaud. C'est un sandwich à la rosette de Lyon ou un jambon beurre, avec un coup de brouillé.
Est-ce que tu as un plaisir inavouable, quelque chose que tu aimes bien manger mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon?
C'est encore une fois, c'est coréen. C'est les nouilles coréennes. C'est les instant noodles.
Mm-hmm.
Ok. Et tu mélanges deux paquets, en fait. Tu mélanges les chapaghetti et tu mélanges un autre paquet. Et ça fait un truc, c'est une bombe atomique, en fait. Alors, c'est pas bon, mais c'est délicieux, en fait. Voilà. Faut être honnête. Non, mais c'est pas parce qu'on a décidé d'être vertueux qu'on peut être toujours 100%. Et de temps en temps, une petite entorse au règlement, c'est bien aussi.
C'est bien le sens de cette question, c'est que comme j'interroge des gens qui en général sont dans une démarche vertueuse, mais que tout le monde a ses petits travers, c'est rigolo de les partager.
Ouais, c'est ça.
Quelle est ton épice préférée?
Difficile. Mon épice préférée... J'adore la tonka. Alors je sais qu'il faut faire attention, faut pas en mettre de trop, mais j'aime bien la saveur du tonka, j'aime bien la... Et j'essaye souvent de la remplacer par... En France, on a des herbes, on a la flouve, par exemple, qui a des arômes naturels de tonka, donc idéalement plutôt la flouve que la tonka. Mais c'est vraiment des arômes que j'adore parce que c'est des souvenirs d'enfance pour moi quand on a bougé à la campagne. Et quand on rentrait dans les paillers, en fait, c'est des paillers qui avaient été laissés à l'abandon pendant une 10-15 ans. Et donc quand on mettait les nez dedans, en fait, ça sentait ça. Et cette odeur. Et en fait, ça me rappelle vraiment quand t'es à la campagne, que tu te lèves le matin tôt, c'est ces odeurs-là que tu retrouves, en fait.
Quel est ton premier souvenir d'épices?
C'est Marseille. C'est là où on a vécu quand j'étais jeune. Et avec ma mère, on partait au marché et du coup, il y avait tous les gars sur les bords du marché avec leurs épices, etc. Et donc c'est mes premiers souvenirs, ouais, c'est ça.
Et tu parles bien de la coriandre fraîche.
Alors il y avait la coriandre fraîche et les graines de coriandre fraîche qu'elle avait avec. C'était ça mes premiers souvenirs d'épices, ouais.
Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant ou en livraison?
Restaurant que j'aime bien, c'est le Rigmarole. Et on a fait un super repas avec mes filles et mon épouse. Et ils font tout cuire au binchotan. C'est toute petite portion, mais ils font aussi des pâtes exceptionnelles. Et on a vraiment, j'ai vraiment eu un... C'est un des meilleurs souvenirs depuis un bout de temps. En fait, ça fait partie d'un dernier repas qu'on a fait en extérieur avec mes filles. Où on a passé vraiment un super moment où c'était jamais assez. Si tu continues à commander parce que c'est tellement délicieux, c'est tellement bon en fait.
Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre?
Je pense qu'il faut repasser, il faut repartir au début. C'est-à-dire, c'est l'éducation des gens. On peut dire ce qu'on veut, on pourrait dire manger des légumes, manger ci, manger là, mais tant qu'on ne sera pas retourné dans les écoles pour expliquer aux enfants d'où vient une carotte, ce qu'est une carotte. Enfin, je prends une carotte, mais je pense que ça peut être n'importe quoi. Hein. Donner des cours de cuisine aux enfants à l'école pour qu'ils se réintéressent aux basiques, okay. C'est fait dans d'autres pays. Nous, on a notre menu gastronomique qui est à l'UNESCO. Au lieu de leur apprendre à se servir d'une tablette, est-ce qu'à un moment on pourrait pas leur apprendre à se servir du ustensile de cuisine pour moins se faire cuire un œuf ou se faire cuire des légumes ou apprendre quelque part des basiques pour que ça se passe bien et mieux? Voilà.
Merci beaucoup Antonin, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
Avec grand plaisir, merci beaucoup Bina.
À bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci.
Food Karma.
Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.